Vous êtes sur RTL.
RTL.fr. RTL Matin.
6 minutes pour trancher.
8h24, le monde entier a les yeux et les oreilles rivés sur le Liban et plus précisément sur sa capitale Beyrouth, puisque c'est à 14h, heure française, que Carlos Ghosn doit prendre la parole. Bonjour Gilles Sakaz.
Oui, bonjour.
Vous êtes un ancien de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, et vous êtes désormais à la tête de Galis, c'est une société de sécurité privée et de gestion de risques. Avec vous, nous allons tenter de comprendre, ou tout du moins d'esquisser les pistes pour expliquer la fuite rocambolesque de Carlos Ghosn du Japon. Comment prépare-t-on une telle exfiltration, c'est une société privée qui a pu l'organiser, selon vous?
Pour moi, une mission de ce type-là ne peut pas être acceptée par une société, mais plutôt qu'il y a un projet, encore une fois, économique, mais plutôt par des individus, des experts pris de façon isolée. Je pense qu'il n'y aura pas derrière, on ne va pas trouver une société derrière constituée.
Vous me dites, pardonnez-moi, mais je vais le dire avec mes termes à moi, qu'on a plus affaire forcément à ce qu'on appelait par commodité des barbouzes qu'à une société identifiée et qui aurait pignon sur rue.
Oui, parce que c'est pas encore une fois, c'est pas un projet d'avenir. Si vous voulez, c'est pas un projet d'entreprise. Aucun chef d'entreprise, aucun entrepreneur sérieux ne peut s'engager sur un contrat de ce type-là. Des individus probablement qui détiennent une expertise, mais pas une société qui a l'intention de durer. Le risque, il est pas tant pour le client, pour Monsieur Ghosn. Il est effectivement pour les individus qui auront participer et qui seront considérés comme complices, si vous voulez, de l'opération. Et le Japon, encore une fois, c'est un pays sérieux, ils vont suivre ça jusqu'au bout.
Bon, on a affaire à un grand pays, vous nous dites, aucune entreprise ayant pignon sur rue ne peut se permettre de se lancer là-dedans, on sait que il y aurait trop de conséquences. Remontant quand même sur le fil de ce que l'on sait de l'opération, très rapidement, il est parti apparemment de son domicile de Tokyo avec un masque chirurgical sur le visage, il a pris un train, il s'est retrouvé dans une malle à 10 000 pieds d'altitude à destination d'Istanbul, avant d'atterrir à Beyrouth et d'embrasser ses proches. C'est quasiment remis en scène de façon assez extraordinaire chez nos confrères des Échos ce matin dans le papier qu'ils ont consacré à cette question. Encore faut-il passer des frontières et éventuellement sortir des papiers. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire?
Moi, je suis un peu sceptique concernant la malle, si vous voulez, parce que je pense que il y a moyen de fonctionner autrement et que le masque avec des papiers, etc. Donc, bon, maintenant, pourquoi pas
Vous savez le faire, alors. Vous me dites que c'est pas votre métier, mais vous avez un avis sur la question. C'est formidable.
Il y a des choses qu'on sait faire et qu'on ne vend pas.
À la lumière de vos premiers commentaires, qui sont les gens qui peuvent organiser une fuite de ce type? Par définition, des anciens de services de sécurité gouvernementaux ou des soldats d'élite?
Oui, par exemple. Alors c'est évidemment à ça que tout le monde pense en premier, mais les, encore une fois, les mafias, les trafiquants font ça aussi très bien, hein, et ont parfois développé ou mis en place des modes opératoires ou des procédures inspirés des services, c'est vrai, quelquefois même améliorés, ou en tout cas réadaptés à leurs contraintes qui sont pas les mêmes. Mais c'est vrai que bon, spontanément, tout le monde pense à des anciens des services.
Nos confrères de Financial Times, qui est un journal sérieux, évalue l'opération à 20 millions de dollars.
Ça me paraît plus juste. Et encore une fois, c'est pas la mobilisation des moyens opérationnels qui fait le prix. C'est que les gens qui font ça, ils le font une fois, puis c'est fini. Après, eux-mêmes vont peut-être finir en prison, puis ils profiteront de leur magot en sortant. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ou en tout cas, ils auront une entrave dans leur déplacement, donc qui fait qu'ils feront plus rien d'autre ou pas grand-chose derrière. Encore une fois, c'est pour ça qu'une entreprise ne peut pas. C'est jamais suffisant, si vous voulez, parce qu'après tout s'arrête.
Comment les trouve-t-on, ces gens qui justement n'ont pas pignon sur rue, qui en aucun cas ne peuvent être une entreprise qui existe et qui doit se bâtir un avenir? Bref, où est-ce qu'on va chercher les barbouzes qui vont être capables de monter une opération commando de ce type?
Bon, ben là, on en trouve partout, dans tous les pays. Vous avez toujours des aventuriers dans l'entourage des grands hommes, il y a toujours des gens comme ça qui proposent des services plus ou moins.
Ah oui, mais j'ai tapé barbouze dans l'annuaire, je peux vous dire que personne ne m'a répondu. Hein,
mais parce que barbouze, c'est votre nom, si vous voulez, c'est votre sémantique. Il y a beaucoup de gens dans les milieux de la sécurité, qui tournent autour des avocats, enfin, etc. Il y a bien sûr.
Une toute dernière question. Pensez-vous que, vu la dimension de l'opération, il puisse y avoir complicité ou une implication d'État à un moment ou un autre dans cette opération menée par Carlos Ghosn?
Alors ça c'est véritablement la question, je dirais presque la plus intéressante au-delà de tous les aspects opérationnels. Pour sécuriser la personne dans la durée et pour se garantir en gros qu'il n'y ait pas de canon conforme, qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises dans la réalisation de la mission, il faut, me semble-t-il, avoir quelques garanties de gens haut placés dans les États. On pense tous évidemment spontanément au Liban. Oui. Je vois pas comment quelqu'un de sérieux peut monter une opération comme ça sans se garantir d'une bienveillance d'État. Et là, effectivement, comme l'opération a fini au Liban. Alors bienveillant, ça veut pas forcément dire officiel, hein, mais ça veut dire en tout cas. Il faut pas qu'au dernier moment un contrôle se fasse et puis remettre en question toute l'opération, quoi. Donc voilà. Après, derrière, si vous voulez, ce qui est important, c'est la suite, là. C'est-à-dire le Japon, c'est je crois 150 millions de dollars, ou entre 150 et 200 millions de dollars de dons faits au Liban, par exemple, si on prend l'exemple du Liban, faits au Liban dans les 10 dernières années. Je veux dire, il y a des accords, encore une fois, c'est un pays sérieux, il y a des accords économiques, au-delà même des accords, si vous voulez, judiciaires ou d'extradition, etc., qui je dirais que c'est presque moins important que les accords économiques et la pression qui va être mise sur les pays dans la relation diplomatique.
Merci beaucoup Gilles Sakaz. Je rappelle que vous êtes désormais à la tête de Galis, société de sécurité privée de gestion des risques. Vous n'auriez jamais mené une opération de ce type parce que vous nous décrivez en fait une opération de type mafieuse, très clairement ce matin sur l'antenne d'RTL, et avec forcément complicité d'État. Merci beaucoup de nous avoir éclairé, et bien entendu, on attend maintenant à 14h la conférence de presse de Carlos Ghosn qui aura lieu en direct de Beyrouth. Merci beaucoup à vous et très bonne journée.
Yves Calvi, RTL Matin.
Pour répondre à toutes vos questions. Dans un...